Sobeuz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Jean-Claude Casadesus.
Bonjour.
Alors la partition que vous nous jouez ces jours-ci, c'est la partition d'une vie. C'est le titre d'un ouvrage qui paraît dans la collection Entretiens dirigée par Noël Simsolo aux éditions Écriture. Ce sont des entretiens avec Frédéric Gossin. Le titre, je pense qu'il ne pouvait pas être mieux que la partition d'une vie, puisqu'effectivement, cette vie, c'est la vôtre. On la suit chronologiquement. Comment est venue l'idée de ce livre? Pourquoi sous forme d'entretien? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez voulu... Alors c'est vrai qu'il y avait déjà un ouvrage que vous aviez fait paraître durant les années 90, mais la
98,
pour être précis, voilà, de votre plume là cette fois-ci, ouais. C'était pas des entretiens. Est-ce que ça vous intéressait justement de passer en revue cette vie sous forme, sous la forme vivante d'une certaine manière de l'interview?
Non, pas du tout. Non, je me suis dit d'abord que ça n'intéresserait personne. Et alors le gentil Simsolo qui est chez Belfond, là, parce qu'écriture c'est chez Belfond, il a demandé à ce que je fasse une sorte de biographie agrandie. Parce que dans mon premier livre, le plus court chemin d'un cœur à un autre, c'est essentiellement l'épopée de l'orchestre de Lille que j'ai décrite. Et il m'a dit, t'as quand même parcouru le siècle ou presque. Oui, gentil. Enfin, bon, c'est vrai que je suis plus un jeune homme. Mais j'ai raconté des choses de l'après-guerre, des choses de mon enfance, des choses sur ma famille, beaucoup sur ma famille. Parce que il y a eu un grand nombre de gens qui sont tombés dans la marmite artistique. Et puis aussi des réflexions sur mon métier que peut-être on n'avait pas l'habitude de lire.
Comment vous êtes sorti de ces entretiens de
bon, bah, attendez, comme c'est ça... très compliqué, mais c'est très compliqué, je veux dire, pourquoi Frédéric Gossin est un type formidable, exquis, musicien, sensible. Et il m'a demandé, il a été choisi par Simsolo, il m'a demandé si j'accepterais qu'il fasse un plan et qu'il pose des questions. Mais il est évident que à partir du moment où... Bon, moi je suis musicien, j'aime l'écriture aussi, et il faut que les phrases sonnent. Or, des phrases traduites d'un entretien sont souvent dénuées de vie. Donc il faut évidemment beaucoup, beaucoup réécrire. Et je lui suis très reconnaissant d'avoir guidé les entretiens, parce que, bon, moi je travaille 8 à 10 heures par jour les partitions. Donc j'aime l'écriture, mais j'aime l'écriture musicale aussi. J'aimerais écrire, j'aimerais faire plein de choses, mais les partitions, ça prend la tête. Voilà. C'est une immersion permanente, donc ça laisse très peu de temps libre. Mais cependant, sur les 260 pages qui m'avaient été recommandées par Belfond, il y en a 400, et ils les ont prises avec en plus un cahier de photos qui n'était pas du tout prévu, parce qu'apparemment, je crois qu'ils ont été contents. Parce que c'est une large... Si vous voulez, la vie aussi, c'est une partition blanche sur laquelle on met des notes sur les portées de la vie, elles partent de l'enfance, on trace les points qui ont participé de l'accomplissement de vos idéaux, et puis voilà, il y a un grand nombre de choses que j'ai eu la chance de côtoyer, aussi le Paris de l'après-guerre, aussi le jazz, aussi la musique, mes premières armes, les débuts pas commodes parce qu'il fallait gagner sa vie très tôt... mes parents, dont je parle avec amour, mais voilà, mes enfants, c'est un petit peu un panorama, si vous voulez, une sorte de, voilà, de peinture sur ce qui a été mon existence.
Mais comment justement vous êtes, je réitère en fait ma question par rapport à comment vous êtes sorti vraiment de ces entretiens, même si évidemment tous ces souvenirs ils sont dans votre tête, de temps en temps ils doivent surgir à un moment ou à un autre de votre quotidien aujourd'hui, mais quand on repasse en revue comme ça l'intégralité, en plus comme vous l'avez dit vous-même, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est effectivement il n'y a pas vraiment de cloisonnement entre la musique et la vie, c'est la même chose, vos proches, votre famille, les musiciens que vous côtoyez, amis ou pas, c'est vraiment l'intégralité finalement, on repasse en revue finalement, on a l'impression de prendre entre l'album photo et le calendrier. Et quand on regarde comme ça, on s'arrête, il y a eu ces entretiens, l'ouvrage est terminé, vous l'avez. Vous regardez ça comment finalement?
C'est presque une thérapie d'une certaine façon, parce que, si vous voulez, en réponse des questions posées, vous, tout d'un coup vous faites appel à des souvenirs qui étaient enfouis, comme vous dites, et puis auxquels on n'aurait pas pensé forcément faire appel. Et je l'ai relu là récemment, je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai... Et ça m'a fait drôle de fait. J'étais un peu persuadé que ça n'intéresserait pas grand monde, et puis finalement, il est sorti il y a 8 jours, mais les quelques personnes qui l'ont lu me disent qu'ils ont appris un certain nombre de choses, donc ça me touche. Comment j'en suis sorti, je sais pas, j'en suis sorti un peu, si vous voulez, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, énormément. Mais comme la musique m'en prend aussi autant, j'ai puisé, sans le savoir, des ressources que je n'imaginais peut-être pas. Mais c'est une grosse somme de travail, c'est vrai. Enfin, l'essentiel, c'est de savoir si c'est vivant. Vous parliez de la vie, c'est fondamental. La musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie. Donc il faut rester dans la vie, je crois, pour traduire les grands moments existentiels que transmet la musique.
Alors le casting est presque aussi, voire plus impressionnant que le jour le plus long. Il y a un nombre de musiciens ou non musiciens d'ailleurs, qui sont proches, que vous avez croisés, amis ou pas.
Ah, j'ai croisé beaucoup de monde.
C'est quand même assez impressionnant, de Lester Young à Pierre Boulez ou Brel ou d'autres. Enfin, on va pas tous citer, je pense qu'on recommandera plutôt aux auditeurs de se plonger dans cet ouvrage. Quand on fait de la musique, enfin on joue de la musique, on l'interprète, on la dirige, quelque chose de tellement personnel en soi, et en même temps, il y a les rencontres, toutes ces rencontres qui sont toutes les pages de...
Qui sont source d'enrichissement aussi, parce que j'ai rencontré des gens de très très grand talent, ça vous donne des leçons de vie, des leçons de réflexion, des leçons aussi d'interprétation quelquefois, et puis voilà, c'est un échange, vous savez. J'ai un de mes grands amis qui est Aldo Ciccolini, qui est un pianiste magnifique et qui a plus de 80 ans, et qui me disait, ah mais tu sais, avec son accent italien délicieux, mais nous avons les mêmes problèmes, le jeune de 20 ans et moi, parce qu'on est confronté aux mêmes nécessités, avec le même trac, avec le même besoin de pénétrer des chefs-d'œuvre et la même angoisse. Et c'est Braque qui a dit, l'art est une blessure qui devient lumière. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a souvent une souffrance, mais il y a des transcendances, et puis il y a des accomplissements lumineux.
Avec la maturité, on dit souvent qu'en général, on va de plus en plus à l'essentiel. Et on en parlera d'ailleurs aussi, parce qu'à la fin de l'ouvrage, vous évoquez vos enfants, vos petits-enfants, et là, vraiment, le côté essentiel de cela, dans toutes ces rencontres donc impressionnantes. J'imagine que, même si toutes ont été évidemment source d'enrichissement, comme vous venez de le rappeler, même parfois peut-être les mauvaises rencontres...
Oui, vous savez ce que disait Picasso. Hein. Picasso disait, je vais voir tous les matins toutes les expositions de peinture, et souvent, les plus mauvaises m'apprennent en tout cas ce qu'il ne faut pas faire.
Alors justement, dans toutes ces rencontres, est-ce que malgré tout, en ayant justement repassé ce fil de cette partition de votre vie, hein, comme une sorte de thérapie, comme vous l'avez dit, est-ce que vous vous rendez compte que finalement, sur l'aspect vraiment musical, de musicien, je ne parle pas des proches de votre famille, il y a quand même eu des rencontres, une, deux, trois, que vous placez vraiment musicalement, en termes d'apport, un petit peu au-dessus des autres?
Oui, bien sûr. Oui, des rencontres avec des grands solistes ou des grands chefs d'orchestre, c'est forcément source de réflexion. Quand j'ai dirigé pour la première fois l'orchestre de Leningrad à l'invitation de Eugène Evgeny Mravinsky, qui était une sorte de tsar de la musique, un empereur de la double croche.
Personnalité en plus.
Personnalité hors du commun, qui avait une mine austère, qui ressemblait un peu à Torquemada, tel qu'on pourrait se l'imaginer, mais qui était un homme aussi très angoissé. Bref, il m'invite et j'étais bien trop jeune et inexpérimenté pour maîtriser les qualités exceptionnelles de cet orchestre de Leningrad qui est devenu l'orchestre de Saint-Pétersbourg et qui m'invite, qui me font l'amitié de m'inviter régulièrement. Je dirigeais une symphonie de Beethoven et une simple réflexion du violon solo, qui était un grand violon solo, qui s'appelait Liebermann, et qui est parti ensuite à Amsterdam avec Kondrachin. Il m'a dit, mais vous devriez penser de telle façon, telle mesure, mais simplement un mot. Et ce mot a déclenché pour moi des fenêtres ouvertes qui permettent d'aller plus loin. Puis quand j'ai eu l'honneur de travailler avec Michelangeli ou Émile Gilels, par exemple, ou aussi de grands chanteurs comme José Van Damme, il y a un échange qui se produit, si vous voulez. Vous avez une intuition. Et si elle est concrétisée par l'aval de celui avec qui vous devez collaborer, eh bien voilà, vous avez le sentiment d'avoir franchi une étape. Et si au contraire, vous n'avez pas pensé à telle ou telle manière d'aborder une phrase musicale, ben ces personnes-là peuvent aussi vous guider. Puis aussi inversement, vous pouvez de temps en temps apporter quelque chose par vous-même, la maturité aidant.
Mais dans toutes ces rencontres, dans ce sort de flot sans fin, et le livre vraiment le souligne bien, c'est galvanisant, c'est nourrissant, comme enrichissant, comme vous l'avez dit. Est-ce que parfois vous avez eu peur de vous perdre, au contact de trop de monde, de trop de choses, cette palette impressionnante de couleurs finalement, est-ce que...
Non, parce que ça a été par étapes successives, si vous voulez. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai créé un orchestre de jazz avec des copains. C'est un orchestre de Nouvelle-Orléans. Après, j'ai abordé le jazz plus moderne, le bebop, Charlie Parker, Miles Davis. Et puis ensuite, j'ai participé à des bals de campagne. Bon, ensuite, j'ai été dans la musique classique. Mais ça a été le début de ma vie. Et puis, j'ai eu la chance d'accompagner un grand nombre d'artistes qui chantaient ou qui jouaient dans tous les styles. Et puis après, mon chemin s'est déterminé dans la voie dont j'avais rêvé quand j'avais 12 ans, c'était être chef d'orchestre symphonique et lyrique. Et puis, toutes ces expériences ont participé de ma construction, si vous voulez. Ne serait-ce que les choix qui s'imposent, et choisir, c'est renoncer. Il faut avoir une identité. Alors, mon identité, elle est classique, mais j'ai eu la chance de parcourir plusieurs domaines qui m'ont permis d'avoir une grande vision tolérante sur les musiques de tous les aspects, pour peu qu'elle soit frappée au sceau de l'authenticité et de l'identité de ceux qui la font.
Je vais lui obéir. Ma mère l'écoutait pleurer de joie. Tu ne t'en es pas aperçu. Toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher. Écoute, j'entends parler derrière ce port. Vite, réponds vite, te verrai-je.
Où vas-tu?
Dans le parc auprès de la fontaine des aveugles. Veux-tu, viendras-tu?
Oui.
Ce sera le dernier soir. Je vais voyager comme mon père l'a dit. Tu ne me verras plus.
Ne dis pas cela, Phileas. Je te verrai toujours. Je te regarderai toujours.
Tu auras beau regarder. Je serai si loin que tu ne pourras plus me voir.
Qu'est-il arrivé, Phileas? Je ne comprends pas.
maintenant. Séparons-nous. J'entends parler derrière cette porte.
Alors cette identité de chef d'orchestre, on pourrait dire au début, c'était pas gagné, puisque d'ailleurs dans Frédéric Gossin, quand il vous pose la question, la timidité ne paraît pas prédisposée au métier de chef d'orchestre, et vous lui répondez, vous ne croyez pas si bien dire, à cet égard, j'ai bien fini par choisir une voie qui aurait dû me rebuter, tant elle s'opposait à ma nature première, se retrouver seul face aux musiciens, leur faire adopter un point de vue, argumenter pied à pied. C'est une responsabilité exorbitante.
Ah bah oui, mais c'est impressionnant. Hein. Vous avez 100 paires de mitraillettes qui sont frappées, qui sont fixées sur vous. Bon, qu'est-ce que celui-là va nous apprendre ? Vous avez souvent les meilleurs musiciens de formation exemplaire quand vous avez la chance de pouvoir les fréquenter. Et puis vous vous dites comment est-ce que je peux apporter quelque chose ? La première question, c'est de se dire, est-ce que je serai suffisamment humble pour me glisser dans les habits des compositeurs dont j'ai la responsabilité de servir. Et c'est l'écriture, le texte. Il faut se plonger dans le texte, essayer de se glisser dans les habits du compositeur, se forger une conception. Vous savez, j'ai une devise que j'ai mise au point dans ma tête il y a quelques années, c'est servir, oser, transmettre et obtenir. Servir, c'est avant tout se dire, il faut que je sois fidèle au texte. Oser, c'est s'autoriser quelques transgressions que l'on croit positives, une respiration, une accélération, un rubato, un tempo plus vivant. Donner la vie, en fait, à la partition. Transmettre, mais écoutez, c'est transmettre aux musiciens ce que l'on croit, c'est-à-dire avec une conception, transmettre au public. La musique aussi nous transmet quelque chose. Et puis, le secret de tout, c'est d'obtenir. Obtenir le résultat de la conception qu'on s'est forgée, sans laquelle il ne pourrait pas y avoir de grandes interprétations, qui en plus doivent déboucher sur la liberté. Il y a la rigueur d'abord, il y a l'instinct, l'analyse, la rigueur et la liberté. Alors tout ça tourne dans votre tête, vous êtes face à une assemblée de gens, vous faites une bêtise, vous avez un mot qui n'est pas approprié, vous avez un faux geste, immédiatement le bateau tangue. Et quelquefois vous avez des réactions qui ne sont pas forcément sympathiques. Donc vous apprenez tout ça, c'est la dure école, si vous voulez, d'un apprentissage pendant plusieurs années. Et puis ensuite, vous commencez à avoir quelques convictions.
Qu'est-ce qui aide à réussir à se frayer un passage et à finalement, d'une part, savoir qu'on a peut-être quelque chose à dire par rapport aux autres, quand notamment, intéressant dans l'ouvrage, il y a pas mal de petites citations, de petits portraits sur toutes ces grandes baguettes, que ce soit Sidi Bidach, Kondraty, etc. À quel moment on arrive à avoir assez confiance justement en soi pour, quand on se retrouve à côtoyer ces géants, pour utiliser un mot un peu galvaudé, mais bon, qui en général, quand on commence à faire de la musique, on les perçoit un peu comme ça, à réussir à justement se dire, j'ai aussi peut-être quelque chose, moi.
Écoutez, je crois que c'est une somme de réflexion, une somme de cicatrices, et puis en même temps, une somme de travail, avant tout, qui
pas
permet...
De secret.
Il n'y a pas de secret, Picasso pour en reparler, disait toujours du travail, et encore du travail. Mais c'est se plonger, c'est s'immerger dans les chefs-d'œuvre qu'on a la charge de transmettre, et puis avoir la conscience permanente de l'analyse qui doit nous poser des questions, être capable de légitimer ses choix, avoir de la technique bien sûr, mais faire oublier la technique au profit de la grande phrase. Il faut arriver à faire jouer, à faire réaliser, à faire penser aux gens que l'on dirige ce qu'il y a entre les notes. Alors vous avez des gens qui ont une très bonne technique, vous avez une foule de jeunes chefs d'orchestre qui sont très doués, qui peuvent mettre en route la machine musicale, mais il faut faire en sorte que les silences soient habités, que les notes parlent et que parfois l'indicible puisse se réaliser, que quelque chose d'inouï, c'est-à-dire de pas entendu, puisse arriver. C'est par les dynamiques, par la couleur, par le rythme, par la vie qu'on va mettre, par la présence que l'on peut avoir auprès des musiciens qu'on dirige. Et surtout, il faut donner toujours le sentiment qu'il n'y a pas de frime, si vous voulez, que ce que je disais tout à l'heure, enfin à l'instant, c'est qu'il faut légitimer, être capable de légitimer ses choix, même si on part dans des directions qui peuvent paraître iconoclastes.
Alors vous l'avez cité, le jazz, une vraie passion du début. Il y a des anecdotes assez intéressantes, et notamment en rencontre avec Lester Young. Qui est
ah bah ça, oui, ça, c'était un grand moment, ça.
Un grand moment, j'imagine qu'on n'oublie jamais.
On n'oublie pas.
Surtout
non.
Dans ces circonstances.
Oui, c'était inouï, parce que son batteur, j'étais au Blue Note, et puis son batteur, je crois, avait un petit peu forcé sur le G&B, et sur le whisky, et puis, je sais pas, il apprend que j'étais batteur, enfin, apprenti batteur d'ailleurs. Mais il me dit, oh, come with me, hi brother, come for a while. Bon, viens jouer avec nous, un petit bœuf. Bon, je me suis mis en tremblant sur l'estrade et j'ai eu l'extraordinaire chance de jouer avec Bud Powell et avec Lester Young pendant 10 minutes, quoi. Pendant un
ça quart reste.
D'heure. Oui, c'était une grande rencontre parce que je l'adorais. J'adorais Billie Holiday, qui était sa compagne et qui est une chanteuse, comme vous savez, exceptionnelle, d'humanité, de. Voilà, de sensibilité fracassée. Enfin, le jazz aussi, c'est un langage inouï, quoi. C'est un langage de liberté et en même temps de transmission de tas de sentiments. Parce qu'il y a l'improvisation, il y a le cadre, et puis il y a l'improvisation qui laisse libre cours à l'imagination. Or, la musique s'adresse avant tout à l'imaginaire, et il est important qu'on soit musicien classique, qu'on soit musicien de variété, qu'on soit musicien de jazz, qu'on ait un panthéon intérieur, un panthéon dans la tête qui puisse générer des images inconnues pour le public.
Alors le hasard a fait que votre vie, vous ayez grandi musicalement en parallèle à ce qui se passait sur la planète, et c'est vrai qu'il se passait pas mal de choses, que ce soit en termes artistiques, on parle du jazz par exemple, la naissance du jazz, tout ça, c'est pionnier historiquement, l'occupation, la guerre, vous en parlez d'ailleurs de manière puissante dans ces pages, il y a ensuite la guerre d'Algérie, etc. Toutes ces choses qui évidemment vous ont suivi involontairement, vous êtes né à ce moment-là. Comment justement, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les passerelles entre les deux, entre ces événements historiques forts. Et comment, justement, il parallèle avec vos créations, avec l'art, avec la musique ?
Bah écoutez, ces différents épisodes, dont certains sont tragiques, éveillent une conscience que je dirais politique, au sens où la police politique, c'est la vie dans la cité, quoi. Et c'est le début de la construction intérieure d'une éthique. On se dit, voilà, ça, je crois que c'est juste, ça, je crois que c'est pas juste. Et puis... On essaye de commencer à forger sa personnalité.
Est-ce que l'art prend une saveur, des couleurs particulières quand il se déroule dans des temps un peu chahutés ?
Ah, je crois que c'est une planète de sauvegarde. Je pense que l'art en général, la musique en particulier, la musique, je crois qu'elle est, c'est même pas moi qui le dis, mais c'est bien que Victor Hugo ait dit « défense de déposer de la musique le long de mes vers », mais il a dit aussi qu'il n'y avait rien au-dessus de la musique, que quand les mots s'arrêtaient, la musique était au-dessus. Et la musique, c'est quelque chose, mon grand-père Henri Cazatzu, avec lequel j'ai éprouvé mes premières sensations musicales, me disait « quelles que soient les vicissitudes de la vie, si tu te réfugies dans la musique et que tu la sers comme il faut, elle ne te trahira jamais ». Et en plus, son pouvoir d'émotion peut permettre à des gens d'éprouver... voilà, dans des océans de détresse, des gouttes d'espérance. C'est Dostoïevski qui a dit aussi « La beauté sauvera le monde ». Il faut le croire avec lui.
Alors, même si vous êtes toujours d'activité intense, on en parlera peut-être en fin d'entretien, est-ce que vous avez l'impression, finalement, rétrospectivement, que la musique classique, qui est quand même le domaine dans lequel vous agissez le plus, on va dire, une époque où, effectivement, il y avait des sortes de batailles d'Hernani, etc., quand... qui a plus trop finalement dans l'impression maintenant.
Beaucoup moins, dans les années 60, c'était,
années 60, alors, évidemment,
c'était incroyable. L'année 1913, le sacre du printemps, voilà. Oui, les scandales. Bah oui, maintenant on a fait le tour de tout, maintenant on attend les génies.
Est-ce que c'est triste, vous êtes un peu... Enfin, il y a une sorte de tristesse par rapport à ça, justement, on aimerait bien un petit peu que ça se crée.
Il n'y a pas de tristesse parce que c'est une exploration permanente, les chefs-d'œuvre, et on peut transmettre une énergie, on peut transmettre la passion, c'est de la passion. Mais c'est vrai qu'il y a eu, comme vous dites, il y a eu des batailles sanglantes entre les anciens et les modernes, mais enfin ça existait déjà au temps de Mozart, hein. Les Italiens, les conservateurs, les avant-gardistes, de tout temps, il y a eu des gens qui ont tracé des voies à partir d'une audace qui était jugée par d'autres insupportable. Bah, aujourd'hui, on a pratiquement tous les paramètres à notre disposition. Hein, c'est un patchwork incroyable, la création. Vous avez la musique électronique, la musique acoustique, vous avez la musique répétitive que de grands anciens ont inventée, hein, Beethoven entre autres, parce que dans sa 7e symphonie, le dernier mouvement, c'est la musique répétitive, formidablement articulée, qu'ensuite Steve Reich et Phil Glass ont développée. Et puis vous avez la musique sérielle, la musique dodécaphonique, vous avez la musique impressionniste, vous avez la musique élégiaque, dionysiaque, la musique minimaliste. C'est un petit peu comme en peinture. Hein. En peinture, vous avez eu tout, jusqu'à Braque, jusqu'à Picasso, jusqu'à Matisse. Et puis aujourd'hui, il y a des retours au classicisme, mais avec des touches modernes. C'est une époque en même temps très très riche, parce qu'on a à notre disposition un matériau extraordinaire que les futurs génies auront à cœur sûrement d'exploiter.
Alors à ce même micro, il y a 2 ans, vous nous aviez dit être artiste, c'est d'abord douter. Est-ce que c'est plus facile de douter quand on est dans ces années d'apprentissage que quand on a déjà quand même des faits d'armes assez impressionnants ?
Mais écoutez, plus la conscience se développe, plus le danger paraît évident, c'est-à-dire de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de ne plus avoir la vista nécessaire, mais en même temps l'expérience permet aussi de faire le tri entre... Mais enfin notre métier, quand on me dit quelquefois « mais vous êtes arrivé maintenant », je dis « on est arrivé qu'au cimetière hein, », je veux dire chaque concert est un tournoi, d'abord contre soi-même et en plus avec les musiciens, avec le public. Le public, ça marche toujours si la musique marche avec les musiciens. Mais il faut convaincre, il faut transmettre, il faut toujours être à la pointe de l'introspection personnelle pour savoir si on est dans une vérité. Et vous savez, c'est Sarah Bernard qui disait à une de ses élèves, qui lui disait « Vous savez, madame, moi je n'ai jamais le trac. » Elle lui a dit « T'inquiète pas, ça viendra quand tu auras du talent. »
La transmission, le mot que vous avez utilisé à plusieurs nombreuses reprises au cœur de vos préoccupations, le partage de ce qu'on pourrait appeler la grande musique, la musique savante, c'est quelque chose qui était évident pour vous très très rapidement.
Très tôt, oui. Très tôt. Quand j'étais timbalier solo des concerts colonnes, c'était dans les années 60, 59, je suis resté une dizaine d'années, je me demandais au fond quelle était la place, la nécessité, la fonction d'un artiste dans notre société aujourd'hui. Je voyais quelques happy few, quelques gens habitués de concerts, mais je me disais, mais il y a toute une frange de la population qui est totalement, qui n'est pas du tout associée à ce type de musique. Et je me suis dit, il faut absolument réfléchir à la façon dont on peut aller dont on peut leur dire, voilà, vous y avez droit. Et dans mon livre précédent, je cite un chapitre qui s'appelle « Ça, c'est pas pour nous ». C'était un chauffeur de taxi qui m'emmenait à l'Opéra de Paris et il me demande ce que je fais. Je lui dis « Écoutez, je vais diriger à l'Opéra ». Il me dit « Oh, ça, c'est pas pour nous ». De ce jour-là, je me suis juré, et c'était dans mes premières années de direction, que je ferais tout pour que ça le devienne. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans le Nord. Formidable terrain d'exploration, 4 millions d'habitants, la région la plus jeune de France. Ils ont été les soutiers de la France, charbon, textile, acier, pas de vie symphonique. Donc je suis arrivé dans une forme de terrain vierge sur ce plan-là et j'ai eu la chance que personne ne croit au futur de mon entreprise. Donc j'ai eu la plus grande liberté pour mettre sur pied ce qui correspond à mon éthique, c'est-à-dire porter la musique partout où elle peut être reçue.
Alors j'imagine qu'effectivement avoir soufflé les plus de 35 bougies de cet orchestre, c'est quelque chose d'important pour vous, d'essentiel de l'avoir amené où il est. Mais quel regard, on est en 2012, vous portez justement au paysage aujourd'hui, même pas que national, international, par rapport aux réflexions que vous avez eues sur cette anecdote du chauffeur de taxi qui vous dit « ça c'est pas pour nous ».
Je pense que plus que jamais, il faut se battre pour que l'éducation artistique soit transmise aux jeunes enfants, nourrir les viviers de mélomanes de demain, ne pas renoncer en période de crise à l'aide à la culture, qui n'est pas le domaine qui coûte le plus cher, mais qui est en général celui qu'on coupe les têtes par priorité, en premier, ouais. Sauf justement en 1975, hein, on était en plein milieu des chocs pétroliers, où Pierre Moreau, avec lequel j'ai bâti mon orchestre, lui sur le plan politique, moi sur le plan artistique, mais a donné, on a beaucoup parlé à l'époque, mais a donné la priorité à éducation, formation, culture. J'espère que le gouvernement actuel suivra cette voie et qu'on résistera aux tentations d'éradication de certaines subventions sans lesquelles des entreprises artistiques de haut niveau ne pourraient vivre. Alors, les efforts, ils sont fondamentaux, tout le monde doit en faire, mais il y a une véritable réflexion à mener sur les bienfaits que la culture, en période justement de crise, que la culture doit apporter. Parce que sinon, on tombe dans le monde d'Orwell. Il faut préserver la part d'humanité, la part, parce qu'on est de plus en plus dans une société robotisée, mécanisée, uniquement d'évaluation, on ne parle plus de sensibilité, on ne parle plus de fraternité. Et je crois que l'art... Là aussi, je ne veux pas paraître pédant, mais il y a une phrase de Malraux qui m'a beaucoup interpellé toujours, c'est « on peut être tenté que le mot art puisse donner à des gens le sens de la grandeur qu'ils ignorent en eux ». Donc il faut militer pour que justement cette part d'humanité, de sensibilité, d'émotion partagée soit toujours valorisée.
Alors parlez-nous un petit peu de la nouvelle saison justement de l'ONL, des temps forts de cette saison.
Il y en a eu quelques-uns. Là, on vient d'ouvrir avec l'île 3000, qui est le petit bébé de Martine Aubry, qui a transformé aussi le paysage de sa ville, avec d'abord l'île 2004, capitale européenne de la culture. On vient de rouvrir une nouvelle voie avec l'île 3000, avec des formidables expositions. Là, je viens de faire un concert devant des milliers, près de 100 000 personnes avec l'accompagnement d'un feu d'artifice et d'expositions qui ont été diligentées par Didier Fusillé, qui est le grand ordonnateur de ces manifestations. Mais il y a la région aussi, la région qui va accueillir le Louvre à Lens, la région qui accueille l'orchestre dans toutes ces villes, dans tous ces villages. Mon auditorium, je vais avoir un nouvel auditorium qui est une chose absolument formidable. Et là, je rends hommage à nos tutelles qui, aussi en période de crise, n'ont pas hésité à se dire, voilà, nous allons travailler pour un patrimoine de demain, une salle de concert qui, je l'espère, sera magnifique, qui coûte beaucoup moins cher que d'autres salles de concert, mais qui devrait être, en effet, le joyau dans lequel les musiciens pourront enfin s'entendre comme ils le méritent, et le public aussi. Alors il y a ça, on vient de faire la 9e symphonie de Beethoven, en dehors de notre lieu, mais en principe il ouvrira au mois de janvier, et là nous aurons un certain nombre de célébrations, dont le Requiem de Verdi, que nous jouerons aussi à Pleyel au mois de mars, un hommage à Poulenc avec la voix humaine, et ça c'est ma fille qui chantera. Je ne pratique pas de népotisme, parce que je crois qu'avec toute ma famille, j'aurais pu depuis 30 ans leur faire participer à beaucoup de spectacles, mais enfin, voilà, chanter 3 ou 4 fois avec moi, elle a beaucoup de talent. Et je m'honore du fait qu'elle puisse rendre hommage à cette œuvre magnifique. Voilà, puis il y a des symphonies, des voyages.
Comment on vit justement, pour citer cette anecdote, ma fille, on sait que avant vous, la musique était déjà dans l'ADN, après vous, elle l'est déjà bien ancrée. Il y a toujours un peu deux types de catégories. Il y a ceux dont en général les parents disent « Oh là là, fais autre chose que ce que moi j'ai fait ». Et chez vous, finalement, tout semble naturel dans la famille avec ce nom qu'il y a dessus, qui semble finalement avoir vraiment un ADN de musique.
Écoutez, c'est curieux. Le nom, c'est quand même, oui, mais il faut le mériter. On ne force personne à faire de la musique. Parfois, on essaye de dissuader certains d'en faire, comme ça a été mon cas d'ailleurs avec mes parents, qui étaient lucides sur les dangers du métier, eux-mêmes étant acteurs. Mais voilà, ma fille à qui j'ai fait faire de la musique avec sa maman, jusqu'à quand elle avait 14-15 ans, alors elle faisait des scènes de ménage incroyables à son violon, et elle était réfractaire. Puis alors, après, vous savez, quand les enfants, hein, ils sont souvent un caractère très, très trempé, alors on a un petit peu renoncé. Puis alors après, quand elle avait 20 ans, elle nous a engueulé, 25 ans, oui, vous auriez dû insister. Enfin, elle s'y est remise, et avec un grand talent. Et ses enfants, alors elle s'est acharnée aussi à l'éducation de ses enfants, et mes petits-fils sont des merveilleux jazzmen, extraordinaires. Ma petite-fille joue du violoncelle classique. Voilà, David et Thomas Inko, c'est leur nom de scène, s'illustrent dans le monde entier. Là, ils tournent. Moi, je suis effaré par la qualité, au fond, d'abord de jeunes passionnés partout, quoi. Partout aujourd'hui, vous voyez plein de jeunes gens. Je pense à l'Orchestre français des jeunes, qui est un creuset d'éducation formidable, qui a été créé par l'État il y a 30 ans, 25 ans, je crois, 25 ans, il me semble. Et que ce soit en classique, en jazz, il y a une espèce d'aspiration aujourd'hui à la créativité, à la création personnelle, qui est, vous savez, quand on fait de la musique, on n'a pas le temps de faire des bêtises, parce que c'est un club assez fermé, très exigeant, mais il faut transmettre le désir. C'est ce que je m'efforce de faire avec tous les enfants dont je m'occupe avec mon équipe. On s'occupe d'environ 15 000 enfants par an. On les fait participer à des programmes symphoniques, on les fait participer, il y a une pédagogie, ils viennent aux répétitions, et ils sont très associés à l'acte de création. Et quand vous avez transmis un désir, vous devez transmettre aussi, naturellement, les moyens de le réaliser. Ça passe par la discipline, par la rigueur. Mais à ce moment-là, la rigueur devient, je crois, volupté pour l'accomplissement du désir. Il n'y a pas de délinquance dans les écoles de musique, il n'y en a pas. Quand vous avez une passion, vous n'avez pas le temps de faire des conneries, et vous jetez avec passion dans la réalisation de vos envies.
Dans votre furieux emploi du temps, vous gardez des petites fenêtres comme ça pour vous plonger dans les partitions, celles que vous n'avez peut-être pas encore abordées, que vous auriez envie de faire.
Ah bah oui, mais j'arrête pas. Ah bah écoutez, oui, je viens de faire une création de Mantovani, qui est le directeur du conservatoire de Paris et qui est un compositeur très prolifique et extrêmement talentueux. Et j'accueille chaque année des compositeurs en résidence. Là, je vais diriger une symphonie que j'ai jamais dirigée d'un compositeur suédois qui s'appelle Nielsen. Bon, il y a tout le temps une exploration. Bien sûr, tout le temps. Il faut laisser en éveil sa curiosité, mais en même temps, il faut revisiter les grands classiques, parce qu'on n'est jamais satisfait, totalement de certains grands voyages avec des grands chefs-d'œuvre. Et donc, il faut se reposer la question. Vous parliez d'économie de moyens, d'épuration, de clarification de la pensée plus on vieillit. Quand on revisite des grands chefs-d'œuvre, on se dit, tiens, là, oui, je peux faire ça, ça sera encore plus aigu. Enfin, c'est une introspection permanente et qui permet parfois d'atteindre la lévitation émotionnelle.
Vous qui êtes porté par de nombreuses convictions et des missions que vous venez d'évoquer, est-ce que jouer la musique de son temps, de compositeur de son temps, c'est aussi une obligation?
Non, il n'y a aucune obligation, je crois qu'il y a un devoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est de permettre aux gens éventuellement de détester. Donc il faut leur permettre d'acquérir la connaissance. Et les compositeurs ont toujours écrit pour le futur, les grands. Le public était en retard, c'est eux qui étaient exacts. Et puis souvent, l'avenir leur donne raison. Quelquefois, il y en a qui tombent dans l'oubli. Mais je pense notre devoir de contribuer à nourrir le patrimoine de demain. Je suis président d'une grande association qui s'appelle Musique Nouvelle en Liberté, dont hélas on rogne un peu les subventions chaque année, mais qui est destinée à, avec la ville de Paris et avec l'État, qui est destinée à permettre à toutes les associations classiques d'introduire de la musique contemporaine dans leur programme traditionnel. Donc je me bats aussi pour que la musique reste vivante, parce que c'est son lot, que c'est normal et qu'on ne peut pas faire de la muséologie. On a besoin des grands chefs-d'œuvre, mais on a besoin aussi de savoir aider ceux qui vont nourrir le souvenir patrimonial de demain.
Quand vous regardez la partition de cette vie, quelle est les pages qui vous apportent énormément d'émotions plus que d'autres?
Écoutez, c'est chaque concert réussi. En fait, parce que c'est toujours une escalade, c'est toujours le sentiment de faire une ascension. Il faut savoir déterminer les routes principales, les chemins vicinaux, les sentiers, les clairières, et puis transmettre la beauté de ces paysages. Bon, puis on se demande toujours si on sera... Parce que moi, je joue par personne interposée. J'indique à des artistes qui ont passé des concours très difficiles une voix, une indication, mais ils ont aussi leur personnalité. Donc il faut canaliser les respirations, et quand on y arrive, c'est le grand bonheur. Et en général, on a plus de chances d'y arriver quand on a passé un certain âge que quand on débute, parce que quand on débute, je vous disais tout à l'heure, on fait les notes comme un pinceau, mais des couleurs, mais il faut que ces couleurs-là fassent partie de la transcendance du paysage.
Bien, ces couleurs, on pourra donc les regarder, elles sont nombreuses, donc dans La partition d'une vie, entretien avec Frédéric Gaussin, qui vient de paraître aux éditions Écriture. Merci Jean-Claude Casadesus.
Mais merci à vous, c'est très gentil.
Yeah.
Jazz.com. Rencontre par Marc Zisman.